Deutéronome 30, restez là, juste plus loin, chapitre 30, et le verset 15 à 19. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Dieu donne déjà un... Je mets devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Fait que tu as le choix, là. Si tu veux être béni pour avoir la vie, il faut que tu obéis aux commandements. On va... 19 jusqu'à... Oh, OK, on va aller jusqu'à 19, là. On va tourner... Ouais, 17. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il donne la réponse. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pourquoi? Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Et car cela dépend de ta vie et de la prolongation de tes jours. Tu veux vivre vieux? Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force, c'est presque certain que tu vas une vieillesse. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. On va aller Deutéronome 28. On va juste reculer un peu. 58 à 68. « Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même, l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui te ne sont point mentionnées dans le livre de la loi. » Je vois jusqu'à 68. « Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que vous n'aurez point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien, à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr, à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux qui n'ont point connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme un suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. » Israël, ils ont souvent existé. Imaginez juste qu'arrivé l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale, là, ils ont crié, là, Dieu n'existe plus. dans l'effroi qui remplira ton cœur en ta présence et en ta présence de ce que tes yeux verront. Tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras, en voulant dire, là, le matin, il arrive, tu dis, si le soir peut arriver, que ça passe au plus vite, puis tu vas dire la même chose, le soir va arriver, tu dis, si le jour peut arriver, autrement dit, tu ne veux plus être dans ce temps de souffrance, puis de maladie que tu es pris dedans. 68, et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Ça veut dire qu'ils ont sorti de l'Égypte, mais lui, il dit, je vais te ramener en Égypte. Et tu feras ce chemin dont j'avais dit, tu ne le verras plus. C'est ça qu'il avait dit, il a traversé Jourdain. Vous allez traverser Jourdain dans la rivière, quand ils ont traversé la mer, là, quand ils ont sorti de l'Égypte. Vous ne les verrez plus, les Égyptiens. Là. Et pourtant, ils ont tourné. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme serviteurs et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Fait qu'on voit que Dieu avait donné au peuple des directives. Ils ne sont même pas encore entrés dans la terre promise. Ils ont lu la loi. Fais ceci, c'est ça qui va arriver. Mais si tu ne le fais pas, c'est ça qui peut t'arriver puis qui va t'arriver. Imaginez-vous, Dieu dit, je vais prendre plaisir à te faire mal parce que tu désobéis. Oui. Fait qu'on peut voir l'implication d'une obéissance ou la désobéissance envers la parole de Dieu. Amen. Puis des juges au roi, après ça, ils ont rentré dans ta promise, ils ont pris possession avec Josué, ils ont pris possession, ils ont enlevé des peuples, puis Dieu avait dit, tu vas tuer ce peuple-là, ils les ont laissés là, puis un autre peuple est arrivé, puis ils ont dit, hey, on va se faire tuer, fait qu'on va se déguiser. Fait qu'ils se sont laissés avoir, fait qu'il a fallu qu'ils endurent, mais c'est un peuple qui sont à ce point de détruire. Ils n'ont pas tout écouté à Dieu à 100%. Ils n'ont pas eu toute la terre au complet qu'ils étaient censés d'avoir, puis ils n'ont pas toutes les promesses non plus. Parce qu'ils ont laissé des peuples dans le pays que c'était un objet de chute pour eux autres, parce qu'ils adoraient d'autres dieux. Parce qu'oubliez pas, ils ont été 400 ans à adorer à peu près les dieux égyptiens. Là. Qu'est-ce qu'ils adoraient? Adonai, ils ne le connaissaient pas. Il n'y avait aucune directive comment l'adorer, comment... Fait, ils ont été soumis pendant 400 ans là, à adorer. Les Égyptiens, ils adoraient quoi? Des statues. Il y avait un dieu pour ci, un dieu pour ça, un dieu pour ci, un dieu pour ça. Il y avait des dieux pour toutes les situations. Fait que les autres, c'était ancré dans eux autres. Puis quand arrivaient les juges, là, à un moment donné, le peuple, il se corrompait parce qu'il se laissait apprendre par les idoles d'où ce qu'ils sont dans le pays de Canaan. Fait que là, Dieu élevait un juge. On a eu Samson, on a eu... Deborah, il y a eu celui qui est arrivé avec les cruches là, puis les flambeaux. Là. Gédéon, c'est plein que le peuple tombait dans une déchéance, puis ils sont captifs, puis ils perdaient tout. Là. Puis ils criaient à Dieu, ils revenaient à Dieu. Là, Dieu élevait, il suscitait un juge, puis que, là, ils ramenaient, oh, on va retourner vers la parole. Là, Dieu, ils sont à vainqueurs, ils retombaient. C'était de même toute l'époque des juges. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils se sont dit, on veut un roi. Là. Tous les peuples ils ont des rois, là, puis nous autres, on en veut un qui va nous dire où aller, à gauche, à droite, quand aller à la guerre, quand ne pas aller à la guerre. On veut un roi. Puis là, à l'époque, c'était Samuel qui était le prophète. Puis il était attristé de voir ça. Puis lui, il a dit, Dieu a dit, non. Fais ce qu'il demande. Parce qu'il dit, c'est moi qui rejette. C'est moi qui me rejette. Il voulait un Dieu. Pensez de ça. David, ça a été le premier. Puis là, il y a eu le premier roi, qui était Saül plutôt. Mais Saül, pourtant Dieu l'a choisi, Saül. C'est Dieu qui l'a choisi. Mais quand le peuple l'a vu, là, oui, c'est lui. Il dépassait tout le monde d'une tête, qu'est la parole dit. Puis la parole dit qu'il est un bel homme. Fait que tout de suite, les yeux, là, waouh, ça c'est un roi. Ça aurait été un tout petit, chauve un peu, ou tu sais, comme un. Tu sais, boiteux. Ah, non, c'est pas un roi, ça. Non. Dieu lui a donné quelque chose qui est attrayant à l'œil. Mais Saül n'a jamais été obéissant à l'Éternel. Jamais dans toute sa vie. Il ne l'a pas été. Mais c'est David qui fut le premier à restaurer la relation avec Dieu. On va aller dans 1 Chronique. On va aller dans des places qu'on ne voit pas souvent. 1 Chronique 22. Puis là, David, c'est lui qui a eu le désir de bâtir une maison à l'Éternel. Parce que là, ça faisait pas mal d'années qu'il est arrivé dans le désert. Il a eu avec le tabernacle de Moïse, que c'était une tente, il fallait qu'il démonte qu'il ramène tout le temps. Puis là, à un moment donné, David, il est devenu roi. Sa royauté s'est affermie. Fait qu'il a dit, là, il faut bâtir une maison à l'Éternel. Il faut y bâtir une maison. Fait que si on lit 22:5, David disait, « Mon fils Salomon est jeune et faible, d'un âge faible. Et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire. » Tu vois, David voyait déjà ça, que la maison qui était pour faire l'Éternel était pour être une grande maison, puis avec une renommée, avec une gloire. Mais il sait que Salomon était jeune, puis il savait que c'était Salomon qui était pour lui succéder. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Puis pourtant, ça s'appelle le temple de Salomon, right? Puis on pense que Salomon, c'est tout lui qui a eu les idées pour bâtir ce temple-là. C'est son père. C'est son père qui a tout fait pour lui. À peu près. Il a tout fait pour lui. Fait que verset 9, voici. Il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le livrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Saviez-vous que dans tout, depuis qu'Israël existe, c'est ce peu laps de temps-là avec Salomon qu'Israël a pu vivre en paix? Ils ont rentré dans Canaan. Après ça, il y a eu tout le temps eu des guerres contre d'autres peuples. Avec Saül, ça a été pareil contre les Philistins. David, la Bible, elle dit, c'était un homme au cœur de Dieu, mais c'était un homme de guerre. C'est pour ça que Dieu dit, tu ne me bâtiras pas la maison de l'Éternel. T'as trop verset de saint. Après ça, il y a eu Salomon. Après ça, c'était la déchéance. Les royaumes sont divisés en deux, les 10 tribus sur un bord, les 2 tribus sur l'autre, puis ça a été. Et jusqu'à aujourd'hui même, jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a jamais été en paix. Jamais, jamais, jamais. Ça a duré, même pas quand. Ça dit la Bible que Salomon, je crois qu'il a régné 40 ans, mais sa fin de sa vie, là, il s'est détourné avec les dieux des femmes qu'il a tant aimées. Hein? Fait que ça n'a pas duré, là, la gloire de tout le royaume d'Israël, là, puis ça a duré peut-être 30 ans, 25, 30 ans peut-être, dans tout. 11 à 12, dans le même chapitre, « Maintenant, mon fils, puis là, écoutez, c'est lui, que David parle à son fils, là, « Que l'Éternel soit avec toi afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme l'a déclaré à ton égard. » Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence pour te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Rappelez-vous que quand Dieu a apparu la première fois à Salomon, puis il a dit, demande-moi ce que tu veux. Pensez-vous que ça venait de lui, ça, de Salomon, de dire, je veux de la sagesse? Non, non. Il s'est rappelé de ce que son papa lui a dit, c'est là. Demande de la sagesse et d'intelligence pour prendre soin de ce peuple-là. C'est ça qui est. Je l'ai vu juste là, là. J'ai tout le temps pensé que Salomon. Après ça, Salomon, Dieu lui a accordé une grande sagesse et une intelligence incroyable. Mais n'empêche qu'à la fin de sa vie, c'était la déchéance totale. Mais c'est David qui a dit, mon fils, écoute-moi bien. Là. Si tu demandes de quoi à Dieu, là, demande-lui ça, demande-lui ça. 12, OK, verset 14. Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 000 000 de talents d'argent, une quantité d'airain d'affaires qu'il n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois, des pierres, et j'en ajouterai encore. Puis David avait tout aussi rétabli l'ordre, les clauses des sacrificateurs, les chantres, les musiciens, les portiers. Si on peut voir ça dans Chroniques, le chapitre 24, 25, 26, il avait tout fait pour Salomon. Tout était déjà préparé. David avait tout préparé d'avance. Puis Salomon, bien, comme de raison, c'est lui qui a bâti le temple. Okay? Comme je disais, il avait 25 ans, Salomon, quand il est devenu roi. Il était jeune encore. Là. À 25 ans, là, c'est jeune. Là. Mais sa chute fut l'amour des femmes étrangères. Même pas les femmes juives, il aimait les femmes étrangères. Ça dit qu'il y avait pas mal de concubines puis pas mal de femmes. Il en a eu pour son argent, mais à la fin de sa vie, il s'est attiré par les dieux de ces femmes-là, puis il a permis de bâtir des idoles à gauche, à droite, que ça a été une chute pour tout le peuple. Hein? Ensuite de ça, il y a les rois. Un roi, un autre, un roi s'est succédé, ils sont succédés, puis le premier, un des premiers rois qui a voulu dire, hey, on va retourner à l'Éternel, c'est à Ézéchias. Si on va dans deux rois, fait qu'on recule un peu. Deux rois 18. À 7. On parle d'Ézéchias. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nébuchadnezzar. Des petits noms, c'est assez difficile. Il mit sa confiance en l'Éternel. C'est la clé. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa ses commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Quand le roi est arrivé, il dit, wow! Là, le peuple est corrompu. Là. On va revenir où ce qu'on était avant. Là. On prend la loi, puis on suit la loi. Fait qu'il a battu les idoles, il a fait ci, il a fait ça, puis on retourne à l'Éternel. Verset 7, « Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui y réussit dans toutes ses entreprises. » Fait qu'on veut du succès dans nos vies. Il faut retourner à l'Éternel. Pour retourner à Dieu. Il n'y a pas d'autre. S'il y a des choses dans nos vies que ça ne va pas, c'est parce qu'on n'est pas entièrement à Dieu. D'après, moi, j'ai étudié ça, j'ai vu ça, là. C'est pas compliqué. Puis regardez quand je l'ai lu plus loin. Il avait dit aux Israélites, là, si tu n'obéis pas, là, les maladies, là, tu vas les avoir, puis tu vas en avoir que tu ne connais même pas, puis qui n'est même pas mentionné dans ce livre-là. Puis combien il y a de maladies aujourd'hui? Ça vient de partout, on ne sait même pas. Je ne dis pas non plus que parce que tu es malade, tu n'obéis pas Dieu, c'est pas ça que je veux dire. Mais à quel point on est obéissant? À quel point? Puis on sait qu'Ézéchias, à la fin de sa vie, à un moment donné, je pense que c'est lui qui était malade, puis Dieu lui a donné 15 années de plus. Mais à la fin de sa vie, il s'est enorgueilli. L'orgueil a pris place. Puis il y a eu le roi de Babylone, il a su pour la maladie d'Ézéchias, puis il a envoyé des commissaires ou des ambassadeurs pour dire, hey, allez le consoler. On a su ta maladie, puis on est con. Je vais vous montrer mon royaume. Il a tout montré, ce qu'il y avait dans, ce qu'il pouvait montrer, tout. Là, le prophète est arrivé, il dit, c'est qui ces gens-là? Ah, ils viennent de Babylone. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont vu ici? Ah, j'ai tout montré. c'était une chute. Ça ne prend pas grand-chose d'être en ligne avec Dieu, puis que le petit peu de gloire nous faire descendre d'aplomb. Ça prend pas grand-chose. Puis pourtant, toute sa vie, quand il est devenu roi, il était juste à la fin. Mais Dieu, il a dit, à cause que tu t'es détourné de moi, tu verras pas le malheur qui va arriver après. Parce qu'il dit, tous les ustensiles, toutes ces choses-là que tu as montrées, ils vont partir pour s'en aller à Babylone. Ensuite de ça, il y a un roi, un méchant roi, un pas bon roi, le peuple c'est encore. Puis là, le prochain roi, c'est Josias. Josias avait 8 ans quand il est devenu roi. 8 ans. Comment peux-tu prendre une décision à 8 ans? Ça veut dire qu'il était. Il avait été consulté sûrement. Mais même si tu peux avoir des bons conseillers autour de toi, si tu es le roi et tu dis que c'est non, ben c'est non. Si tu dis que c'est oui, ben c'est oui. Peu importe le conseil qui soit bon ou qui soit pas bon. Mais lui, Josias, il a 8 ans, là, lui. Là. Fait sûrement il y a eu des bons conseillers en arrière. Il dit, écoute, là, ça va pas bien. On est mieux de se tourner vers Dieu. Là. On va aller dans 2 Chroniques 34. Chronique 34, verset 3. La 8e année de son règne, fait qu'imaginez-vous, il avait 8 ans, il a 16 ans. Fait qu'à l'âge de 16 ans, à la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, comme des raisons, 16 ans, il commença à rechercher le Dieu de David. Dans le fond, là, c'est juste à l'âge de 16 ans qu'il a décidé de commencer à regarder Dieu, là. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem, les hauts lieux et les idoles, les images taillées. Fait que là, il a dit, OK, on fait une réforme, là. Bon, ce que je vois, là, ça ne marche pas, là. Il y a trop d'idolâtrie, on va enlever les idoles, on va tout enlever. Puis là, il dit, là, le temple, avec les années, il y avait moins de réparation. Fait que là, il dit, va voir le sacrificateur, puis il dit, pour l'argent qu'il y avait dans le temple, je paraphrase, parce que je n'aurais pas le temps de tout aller le lire, là. Il dit, va voir le sacrificateur, puis avec l'argent, je veux que les ouvriers se mettent en marche. Puis, que ça... puis quand il est allé voir, la personne qui est allée voir le sacrificateur, on va aller 34 au verset 14. Au moment où il a sorti l'argent qui avait été apporté à la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ikija trouva le livre de la loi donné par Moïse. Fait qu'imaginez-vous, là, lui, le roi, il dit, envoie le gars pour dire au sacrificateur, lui, le sacrificateur, fouille, sort l'argent, le livre de la loi. Il trouve le livre de la loi. Imaginez-vous, là. Il ne suivait même plus, là. Il trouve le livre de la loi. Puis là, quand il a trouvé le livre de la loi, bien là, c'est certain que là, Josias, là, quand il l'a lu, il a dit, dans le titre, là, faut suivre ce qui est écrit là-dedans. Sinon, là, on m'honore à nous autres, là. Alors regardez là, plus loin un peu, 34-21. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel et n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. Mais nous autres aujourd'hui, là. Puis en plus, Josias, il a restauré la Pâque. Ça dit même dans la parole de Dieu que c'était une des plus grandes Pâques qu'ils ont faites. Verset 18, allez plus loin, on va le lire. 35-18. Aucune Pâque pareille à celle n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias. Les sacrificateurs et les Lévites, et tout Juda et Israël s'y trouvaient, et tous les habitants de Jérusalem. Il y a des années que ça avait passé, là, d'un roi à l'autre, là. Plusieurs centaines d'années. Là. Mais nous autres aujourd'hui, là, dans nos vies, là, même, là, comment de fois qu'on entend? Caroline, il me semble que Dieu, on le sent moins. Même Pierre, tu l'as dit encore dans le centre de Pierre. Elle est où la guérison? Elle est où la délivrance? Ils sont où ces choses-là? Pourtant, c'est à nous autres. On dirait que. C'est où? Pourtant, c'est là. Mais pourtant, on ne les voit pas. On les voit-tu? Y a-tu du monde de malade? Oui, il y a du monde de malade. Il y a du monde de bien malade à part de ça. Même ici, là, à l'église. Là. Où sont les dons du Saint-Esprit? Parce que Marc 16,18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourtant, nous le faisons et nos malades sont encore malades. Exact? Ils sont encore malades. Je peux vous ma femme est encore malade. Pierre, il y a du monde qui est encore malade. Pasteur Claude est encore malade. Puis les dons du Saint-Esprit, Jésus, peut-être qu'elle a que moins corps. 1 Corinthiens 12. C'est des choses que Dieu nous a permis. Mais comment ça se fait qu'ils sont. On dirait qu'on ne les voit plus, là. 1 Corinthiens 12. Oh, je suis dans 2 Corinthiens, excusez-moi. À partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, de prophétie, discernement des esprits, diversité des langues, interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, à chacun, à chacun. On peut tout avoir ces dons-là. Mais c'est lui qui le dit à chacun en particulier comme il le veut. Comme lui le veut, va te donner le don de discernement. Va te donner le don. Vous savez, j'entends souvent André, Pierre, des fois Claude, il en parle. Comment c'était l'onction de l'esprit dans votre temps, quand vous avez été dans les années 70, fin des années 70, 80. Là, j'étais là, je me dis, c'est vrai, parce que j'arrivais des années 91, puis c'était encore puissant dans l'Église. C'était très puissant. Pourquoi que ça l'était tellement là? Puis qu'aujourd'hui, je ne dis pas que dans d'autres places, ça ne l'est pas, mais ici, ça ne l'est pas. Si je regarde avec mes yeux, je vois, là, si je suis honnête, là, je ne vois pas de puissance de Dieu encore ici, là, comme ça l'était déjà. Vous d'accord avec moi? Là, je me suis mis à réfléchir, pourquoi? J'ai regardé, là, les années 70-80, la plupart des gens viennent du background catholique. Puis la plupart de ces gens-là allaient à l'église, avaient en quelque sorte une connaissance de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, des choses-là. Ils avaient une connaissance. Quand ils arrivent au Seigneur, ça a été le bing-bang. Waouh, Dieu, c'est vraiment même qu'il faut le darer, c'est ça qu'il faut faire. Ça a été du monde en feu. Puis vous autres, dans la trentaine, vous êtes arrivés dans ce mouvement-là. Waouh, c'était. Mais n'oubliez pas qu'à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose qui nous intéressait à la télévision. Rien. L'Internet n'avait pas. Il n'y avait pas ces choses-là. Il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'il y avait? c'était la communion fraternelle qu'il y avait. De se rencontrer, de célébrer Dieu, de louer Dieu, de prier les uns pour les autres, la foi, la venait, puis dit le vrai. Vous l'avez dit, vous étiez déplacé à une place, prier, vous étiez rendu à l'autre plan. Des choses incroyables se sont passées. Mais les années ont arrivé. Et la fameuse Internet est arrivée. N'oubliez pas que l'Internet, là, quand tu vas là-dessus, là, c'est à peu près les pensées de Pierre-Jean-Jacques qui est là-dessus, que tu peux avoir là-dessus, là, puis que tu vas aller là-dessus, vous allez dire, waouh, ça fait du sens ce qu'il dit, lui. Ça fait pas mal de sens. Puis dans tes faiblesses, parce qu'on a tous des faiblesses à quelque part, ça, puis le péché s'est accru. La méchanceté de l'homme elle s'est accrue à un point, à un point, à un point, que c'est. On est. C'est. Je ne sais pas comment l'expliquer, comment la méchanceté, aujourd'hui même, c'est à un niveau intense, puis le péché aussi. Puis l'immoralité est sans borne aujourd'hui. Là. Il n'y a plus de limite dans l'immoralité. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Je n'entre même pas dans les détails, il n'y en a plus. Puis avec l'Internet, juste pensez ça vite fait de même. Là. Je passe des fois, là, puis je vois des jeunes qui sortent du primaire, de l'autobus, ils ont des cellulaires. Comment est-ce qu'un jeune de 12, 10, qu'est-ce qu'il fait avec un cellulaire? Là, je le vois, là. Non, non. Il joue-tu? Il a-tu accès à l'Internet? Puis pourtant, c'est un cellulaire, s'il arrive à la maison, possiblement qu'il va se connecter à l'Internet. Mais quand tu arrives dans 12, 13, 14 ans, si tu es smart pour 5 cents puis tu n'as pas d'Internet, à côté sur le mur du Tim Horton, à côté sur le mur de n'importe où, tu vas avoir du Wi-Fi. Tu vas l'avoir le Wi-Fi. Puis qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu penses les jeunes y allent aujourd'hui? C'est plein de perversité. Plein de perversité. Mais Lamentation 3. C'est Jérémie, après c'est les Lamentations. Si le péché s'est accru, c'est ça qui est arrivé. 3, 21 à 23. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Le mot renouvellement ici, là, dans le grec, là, ça veut dire que c'est quelque chose, une chose nouvelle, quelque chose de neuf. Ça veut dire que Dieu, à chaque matin, te donne quelque chose de nouveau. Bien, l'onction qu'on avait dans les années 70, dans les années 80, quoi qu'elle était puissante, on l'admet, mais elle n'est plus là. Elle est partie, cette onction-là. Dieu a encore quelque chose de plus puissant pour nous autres qui sent des jours, qui s'en vient. Je vous le dis, là. On n'a rien vu ce que Dieu va faire avec nous autres encore aujourd'hui. Rien. Puis quand on voit David, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi, tu sais, le mot renouvelle en moi, là, c'est pas pareil. Là. Renouvellement, ça veut dire là, une restauration. Restaure. Puis quand la parole de Dieu nous dit renouveler nos pensées en Christ, encore là, c'est pas une nouveauté, c'est une restauration. Renouvelle, restaure mes pensées en toi, Seigneur. 2 Corinthiens 13, 5. Corinthiens, chapitre 13, et le verset 5. Examinez-vous vous-même, pas ton frère, examine pas ton frère, là, ni ta soeur, là. Examine-toi toi-même, là, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Là, je crois qu'on arrive à un point. Tous et chacun, on doit s'examiner puis se dire, suis-tu vraiment dans la foi, là? suis-tu vraiment le Seigneur? Est-ce que je le suis de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force? Puis peut-être, pour certains, ils vont dire, oui, je pense que oui. Je pense que je le suis de toute... Oui, ça va bien. Jean, tournez dans Jean. Jean 13:34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À tous ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu penses peut-être que tu as tout, mais ça prend l'amour. 1 Corinthiens 13. Verset 4. L'amour. OK. On va pas commencer. On peut partir au verset 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, imaginez-vous, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, tu as parlé du riche, hein, tantôt, hein? Mais lui, c'est pas ça qu'il fait, là. Lui, il en donne à tous les pauvres. Mais s'il y a l'amour, ça ne donne rien. Car l'amour, verset 4, est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle, il, plutôt parce que c'est un amour, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périra jamais. C'est l'amour qui va faire que ça va coller avec tout ce qu'on fait, qu'on peut faire avec Dieu. Ça nous prend cet amour-là. Puis l'amour entre nous autres, entre frères et sœurs. Je sais qu'il y a une parole qu'il dit, là, que je vais paraphraser, mais regarde pas tes intérêts, regarde les intérêts de ton frère au lieu des tiens avant. Ouais, c'est ça. Il faut toujours considérer ton frère, ta sœur à un niveau plus haut que toi. Si on fait tout ça, on va tous avoir une bonne considération les uns pour les autres. Dans le fond, pense-y. Si on prend soin les uns les autres, qui va manquer de quoi? C'est pas ça. C'est pour ça qu'au début, dans les Actes des Apôtres, l'Église était tellement puissante, mais que les années a été diluée. Diluée par le péché, par des doctrines, par des affaires d'hommes, des lois d'hommes qui ont été rajoutées, des ci, des ça, des sectes, des... Fait que l'Église a été diluée, puis il y a des bouts qui sont venus fortes, et des bouts qui sont venus fortes, qui sont venus faibles. Puis là, elle est venue forte dans les années 70, 80, un gros boom, surtout au Québec. Mais là, elle est diluée, l'Église. Elle est encore diluée dans beaucoup de péchés. On a besoin de retourner à l'Éternel, tous et chacun, individuellement. Quand on va faire ça, et avoir de l'amour les uns pour les autres, je peux vous dire que Dieu va faire quelque chose. Là, on va être des vaisseaux que Dieu va dire, ah, elle, je peux la remplir. Lui, je vais la remplir. Lui, il a besoin de quelque chose à donner à l'autre. L'autre a besoin de quelque chose à donner à l'autre. Parce que dans le fond, ce que j'ai, c'est pour vous. Ce que tu as, c'est pour moi. C'est pour elle. C'est pour lui. On est des vaisseaux que Dieu utilise qui nous permettent de bénir un, de bénir l'autre. Mais si tu n'es jamais à l'église, comment peux-tu bénir un frère et une soeur? Tu vas dire, oui, j'ai béni l'autre qui est dans la rue. Non, tu as besoin d'être avec tes frères et tes soeurs ici. Ici. Le corps, comprenez-vous, le corps ne peut pas être dispersé de même. Là. Vous savez que, imaginez-vous, le ministère de l'Éducation de Drainville, il a parlé cette semaine aux nouvelles. Savez-vous ce qu'il a dit? Il dit, on est peut-être rendu à un point qu'on ne pourra même plus éduquer nos enfants. Imaginez-vous, là, où est-ce que ça ne va pas bien? Là. Regardez, là, les guerres partout, il y a de l'esclavage sexuel avec les enfants, des femmes, n'importe quoi. Il s'est rendu qu'ils vendent des hommes, des femmes, ça a toujours été, mais c'est pire que pire que pire. La santé, c'est incroyable, la santé, là. On ne peut plus se faire soigner. On ne peut plus se faire soigner. Vous savez aussi que la loi de Moïse, tu avais la loi sacrificielle et la loi morale, la loi des sacrifices. Faut que tu fasses tel taureau, tel sacrifice pour pardonner tel péché. Ça, là, c'est aboli, ça. Oui, 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 de plus. Mais la loi morale est toujours là. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne convoiteras point. Tu ne compteras pas de mensonge. C'est toujours là, ça. Ça n'a pas changé, cette loi-là. Là. Puis imaginez-vous que ça dit dans Romains, qui dit, parle de Romains, là, ceux qui n'ont pas Dieu, mais eux autres, là, en quelque part, ils ont une loi qui est écrite dans leur cœur, qui savent que qu'est-ce qu'ils font, c'est mal. Imaginez-vous. Puis ils ne connaissent pas Dieu, puis ils ne savent même pas si c'est Dieu, mais c'est des peuples qui ont été capables d'avoir une loi morale, de savoir ce qu'ils faisaient, que c'était mal ou que c'était bien. Aujourd'hui, là, on vit dans un monde de déchéance, je vous le dis, c'est de pire en pire. Mais Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre et que nous sommes la lumière du monde. Mais l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres, c'est ça qui va prédominer sur toute chose. Parce que Jésus l'a dit, si vous avez ça, vous êtes mes disciples. T'as beau avoir tes autres affaires, ça prend l'amour. Ça prend l'amour. Je finis avec ça, Josué 1. Fait Josué, juste avant d'entrer dans la terre promise, parce que Moïse... il n'a pas pu rentrer. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ben moi, je veux réussir. Puis j'aurai du succès. Mais je sais qu'il y a des choses que j'ai besoin d'abandonner. Vous savez, là, la télévision, là, elle peut nous divertir, là, bien comme du monde, bien d'aplomb, là, comme on peut dire en bon québécois. Là. Puis il y a bien d'autres affaires qui peuvent nous divertir. Mais à un moment donné, il faut faire arriver et faire des choix. Je ne parle pas pour la télé, il y a bien d'autres affaires. Là. De dire, là, non. Non. N'oubliez pas, moi je me rappelle là, ces années-là, là, les 91, quand j'arrivais au Seigneur. Là. Hey, j'allais à une cellule chez vous, j'allais à une cellule chez Claude. On était à l'église le mardi, on était à l'église le mercredi. On était partout. On était tout le temps ensemble. On était tout le temps gang ensemble. Hey, je me rappelle, on allait à des réunions de prière dans la maison chez Jonathan. Jonathan restait à Constantino, là, son petit logis. Là. Hey, on était tellement pacté dans la cave. Ça n'avait pas de bon sens. On était pacté, je ne sais pas comment est-ce qu'on était dedans. Une trentaine, je ne sais pas. On était tout à côté sur le bord du mur. Il n'y a pas de place, ça c'est tout le monde. Mais Dieu va ramener ces choses-là. Si nous retournons à l'Éternel de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme, c'est là que le début des choses faut faire. Lamentation 3. Ben, lis-là, tu l'as. Merci Seigneur. Gloire à toi. Seigneur, on te remercie, éternel mon Dieu. Puis Seigneur, je te demande que tous individuellement qu'on puisse prendre une prise de conscience, puis se regarder, là, s'examiner tous et chacun devant Dieu, là, dire, Seigneur, là, où je suis rendu avec toi, là? Est-ce que je t'oublie vraiment? Est-ce qu'il y a des affaires vraiment, là, si futiles, si inutiles dans ma vie, là, puis que je continue à les faire ou à regarder? Aide-moi à abandonner et à te servir toi seul. Toi seul. Puis mets ton amour dans mon cœur pour mes frères, pour mes sœurs. La parole nous dit de se supporter les uns les autres, prier les uns les autres, consolez-vous les uns les autres. Il faut faire, peut-être apprendre à plus avoir cette communion-là entre nous autres. Oui, oh, viens, viens, oui, prenez le micro. Amen. Et gloire à Dieu, soyez bénis.